retour de Marie, feuilleton en 5 épisodes d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint, publié aux éditions de Minuit. Lecture par Jean-Philippe Toussaint, enregistré en public au musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon. Cinquième épisode, nu.
En dehors du côté spectaculaire de certaines des robes créées par Marie dans le passé, la robe en sorbet, la robe en calicotum et romarin, la robe en gorgone de mer que paraient des colliers d'oursin et des boucles d'oreilles de Vénus, Marie s'aventurait parfois en marge de la mode, sur un terrain expérimental, proche des expériences les plus radicales de l'art contemporain. Menant une réflexion théorique sur l'idée même de haute couture, elle était revenue au sens premier du mot « couture », comme assemblage de tissus par différentes techniques, le point, le bâti, l'agrafe ou le raccord, qui permettent d'assembler des étoffes sur le corps des modèles, de les unir à la peau et de les relier entre elles pour présenter cette année à Tokyo une robe de haute couture, sans couture. Avec la robe en miel, Marie inventait la robe sans attache, qui tenait toute seule sur le corps du modèle. Une robe en lévitation, légère, fluide, fondante, lentement liquide et sirupeuse, en apesanteur dans l'espace et au plus près du corps du modèle, puisque le corps du modèle était la robe elle-même. La robe en miel avait été présentée pour la première fois au Spiral de Tokyo. C'était le point d'orgue de la dernière collection automne-hiver de Marie. À la fin du défilé, l'ultime mannequin surgissait des coulisses, vêtu de cette robe d'ambre et de lumière, comme si son corps avait été plongé intégralement dans un pot de miel démesuré avant d'entrer en scène. Nue et en miel, ruisselante, elle s'avançait ainsi sur le podium en se déhanchant au rythme d'une musique cadencée, les talons hauts, souriante, suivie d'un essaim d'abeilles qui lui faisait cortège en bourdonnant en suspension dans l'air, aimantée par le miel, tel un nuage allongé et abstrait d'insectes vombrissants qui accompagnait sa parade et tournait avec elle à l'extrémité du podium dans une embardée virevoltante comme une projection d'écharpe échevelée, sinueuse et vivante, grouillante d'hyménoptères qu'elle emportait dans son sillage au moment de quitter la scène. Tel, du moins, était le principe. En pratique, les difficultés s'étaient multipliées et la présentation de la robe en miel au Spiral de Tokyo avait nécessité des mois de travail et la mise en place d'une petite cellule spécialisée qui s'était consacrée exclusivement au développement du projet de la robe en miel. Dès le départ, il avait fallu choisir entre travailler avec de vraies abeilles ou faire appel à un système de faux insectes téléguidés en s'appuyant sur les travaux les plus récents de biorobotique qui permettent d'envisager de minuscules robots aériens dotés de capteurs électroniques ventraux. Après examen de la question et de nombreux échanges de courriers électroniques entre Tokyo et Paris, agrémentés de documents joints croquignolés qui contenaient des schémas complexes de prototypes volants miniaturisés à l'allure sibylline de machine à voler de Léonard de Vinci, il apparut qu'il était techniquement possible de faire voler un essaim d'abeilles sur un podium de mode. Le principal point positif mis en lumière par les collaborateurs de Marie était que les colonies d'abeilles sont dociles et suivent partout aveuglément leur reine. Si une reine parvient à s'échapper d'une ruche, toute la colonie la suit dans la nature, de sorte que certains apiculteurs n'hésitent pas à couper les ailes de leur reine pour éviter de tels exodes. Lors d'un premier voyage préparatoire que Marie avait fait au Japon, son assistant lui avait arrangé un rendez-vous avec un apiculteur corse qui vivait à Tokyo. Et Marie s'était retrouvée à déjeuner dans un restaurant panoramique de Shinjuku avec un certain monsieur Tristani, ou Cristani, dont le prénom n'était rien de moins que Toussaint, petit homme sympathique, débonnaire, vêtu de tweeds, de chevrons, de beige et de bordeaux. Monsieur Tristani avait le poignet dans le plâtre et le bras en écharpe. Il portait d'épaisses lunettes jaunes au verre fumé, qui cachaient un regard aigu, rusé et méfiant. Monsieur Tristani avait commandé l'apéritif dans la grande salle à manger déserte du restaurant panoramique, et il devait s'attendre à quelques déjeuners galants en compagnie d'une jeune femme qui s'intéressait à la fabrication du miel. Mais Marie n'avait pas l'habitude de badiner pendant les déjeuners de travail. Dès que le maître d'hôtel était venu prendre la commande, elle lui avait exposé d'une voix décidée les grandes lignes de son projet. Monsieur Tristani, dont les ardeurs s'étaient très vite éteintes, l'écoutait gravement, en hochant la tête, le poignet dans le plâtre, détachant de temps à autre maladroitement un filet de sole de sa main valide, puis posant son couteau à poisson sur la nappe, il ramassait sa fourchette et avalait une bouchée d'un air douloureux et même préoccupé, car s'il avait bien compris, l'idée consistait à recouvrir un top modèle de miel, Piombo. Monsieur Tristani n'apportait pas beaucoup d'éléments de réponse aux multiples interrogations de Marie, se contentant d'éluder les questions en esquissant un geste vague de la main avec une expression fataliste. Et reprenant son couteau à poisson, il se remettait à défaire longitudinalement son filet de sol en jetant à l'occasion un coup d'œil rêveur sur le quartier administratif de Shinjuku qui s'étendait dans la brume derrière la baie vitrée. Il restait résolument perplexe, répondait à côté ou évasivement aux questions techniques précises que Marie avait préparées à son attention, agenda ouvert à côté d'elle sur la nappe, liste de questions qu'elle cochait à mesure, sans jamais obtenir le moindre renseignement utile. À croire que Toussaint n'y connaissait rien aux abeilles, ou que l'apiculture n'était pour lui qu'une couverture. Leur collaboration s'en était tenue là. Ils s'étaient séparés dans le hall de l'hôtel à la fin du déjeuner, et il lui avait offert un pot de miel avant de prendre congé, ce qui avait donné à Marie l'idée du sous-titre de son défilé, Maquis d'automne. Finalement, Marie avait travaillé avec un apiculteur plus bohème, un Allemand installé dans les Cévennes, puis dans l'île d'Hokkaido, légèrement homosexuel et follement amoureux d'elle, selon Marie, ou le contraire, selon moi, une folle perdue qui avait un petit béguin pour elle, qui ne contredisait jamais personne et était prêt à faire ce qu'on voulait de ses abeilles, pourvu qu'on lui signât des dérogations et des dégagements de responsabilité pour les autorités sanitaires japonaises et qu'on lui offrit pas mal de blé en contrepartie. Il aurait peut-être été parfait, cet homme, s'il ne s'était adjoint les services d'un autre cévenol germanique qui venait également de l'île d'Hokkaido, une sorte d'idéaliste qu'on ne trouve plus que dans le miel, qui se faisait fort de dresser la reine des abeilles pour le défilé et en avait fait une démonstration ahurissante dans les bureaux de Tokyo de la maison de couture Allons-y, Alonso, devant tout le staff des collaborateurs japonais de Marie, designers et graphistes vêtus de noir, avec de fines lunettes à monture en titane, besaces en bandoulière croisées sur la poitrine, graves et sceptiques, réunis en arc de cercle devant une table à tréteaux vide ou sans la moindre abeille, le gars leur a fait un numéro pathétique de dompteur de puces, comme dans une vieille plaisanterie où le dompteur, égarant ses protégés, les appelant par leur nom, les retrouvant, leur faisait faire des acrobaties et des triples sauts périlleux. Tout le monde était ressorti de la réunion consterné et Marie avait viré le type. La préparation de la robe en miel avait également posé d'épineuses questions juridiques, d'assurance et de contrat. Lorsqu'au terme d'un long casting organisé dans les bureaux de la maison Allons-y, Alonso à Tokyo, la mannequin fut choisie pour la robe en miel, une jeune russe d'à peine 17 ans, les avocats de Marie travaillèrent plus d'un mois pour mettre au point le contrat définitif avec l'agence Réseau de Shibuya. Contrat de plus de 15 pages qui contenait des quantités d'avenants et des clauses inhabituelles en raison de la spécificité de la prestation. La mannequin fut invitée à passer plusieurs visites médicales, dut consulter un dermatologue et un allergologue et des tests furent programmés dans une clinique privée pour vérifier que sa peau pouvait supporter sans risque d'eczéma ou d'irritation un contact massif de miel sur la totalité du corps. Les premières répétitions eurent lieu sans les abeilles. La ruche n'arriva par camion d'Hakodate que la veille du défilé. L'immeuble spirale avait été entièrement réaménagé. Le café et les boutiques fermées au public et le podium avait été dressé dans le prolongement de la fameuse rampe en spirale qui descend du premier étage le long des murs de marbre blanc. Toutes les baies vitrées du bâtiment avaient été occultées par de grands drapés de velours noir. La dernière répétition eut lieu dans les conditions réelles du défilé, parmi les lumières ambrées des poursuites, des électriciens encore juchés sur des échelles pour régler la position des spots. La scène était recouverte d'épaisses bâches protectrices argentées et le top modèle, en tennis blanche délacé et maillot de bain de pièces bleu pâle à fleurs jaunes, un iPod à la taille qu'un réseau de fils emberlificotés relié à ses oreilles, prenait une série de départs chronométrés par des assistants bardés de matériel informatique. Des ordinateurs portables traînaient partout dans les coulisses, abandonnés ici et là sur le sol du podium. Le staff complet des collaborateurs japonais de Marie avait maintenant pris ses quartiers au spiral. Ils avaient envahi les chaises noires laquées réservées aux spectateurs au pied du podium et regardaient le modèle accomplir une série de trajets complets à vide en partant des coulisses, sans miel et suivi de nul insecte, traversant le podium dans ses tennis délacés de son pas nonchalant, la moue boudeuse et la démarche éthérée, tandis que des techniciens sons, émergeant d'un désordre de flight case argenté, réglaient les niveaux sonores derrière leur console, interrompant parfois la musique pour la faire repartir par brusques bouffées tonitruantes. Le jour du défilé, quelques minutes avant l'entrée en scène de la robe en miel, régnait encore une effervescence de ruches dans les coulisses. La mannequin, debout sur un mini tabouret disposé sur une bâche transparente, attendait, nue, la police et le sexe rasé. Elle ne portait plus qu'un string couleur chair, d'à peine 2 cm de large, qui masquait son pubis, et plusieurs maquilleuses, debout à ses côtés, travaillaient sur les parties de son corps qui resteraient découvertes pendant le défilé, couvrant son visage et ses mains de poudre de riz, qu'elles appliquaient à la houppette pour faire ressortir sur sa peau, par contraste, l'ambre de la robe de miel qu'elle ne portait pas encore. Plus loin, à côté d'étagères qui contenaient des alambics et des ballons en verre, des récipients à décantation, des creusets en graphite, un essaim d'assistants japonais androgynes s'activait comme des laborantins autour de la cuve en inox qui contenait le miel, glissant des éprouvettes dans la substance gluante pour recueillir des échantillons dont ils étudiaient la couleur et la viscosité à la loupe, introduisant un thermomètre dans la cuve pour prendre la température du mélange, afin que le miel eût l'exacte consistance souhaitée au moment d'être enduit sur le corps du modèle. Quand la mannequin fut prête, étonnant corps lunaire, épilé et poudré, les mains, la face et le décolleté couverts de poudre blanche, les assistants, se mettant à l'ouvrage, commencèrent à la peindre au pinceau, répartissant le miel sur son corps, l'un agenouillé le long de sa cuisse, avec une courte brosse en poil de marthe, un autre debout sur un escabeau qui lui enduisait le dos et les épaules au rouleau, tandis que d'autres encore lissaient le miel sur ses chairs, tapotait délicatement sa peau avec des compresses de gaz fines et humides, et qu'une grappe de jeunes stagiaires en blouse blanche tournait autour de son corps immobile pour unifier la couche fraîchement posée à l'aide de sèche-cheveux afin de donner une ultime touche de laquée à la robe. Une habilleuse accourut avec les chaussures à talons aiguilles et les présenta au modèle qui se hissa dessus en prenant appui sur les épaules d'assistants accroupis, une jambe après l'autre, tandis qu'on l'accompagnait vers les coulisses en lui faisant un dernier accord coiffure. Alors, en une fois, au déclenchement de la musique, la mannequin s'élança et traversa le podium, suivie de l'essaim d'abeilles qui s'était calqué sur son allure, la suivant dans un bourdonnement électrique de milliers d'insectes qui couvraient les exclamations admiratives des spectateurs. C'était une réussite inespérée. La mannequin avait atteint l'extrémité du podium, elle avait observé une légère pause qu'elle avait marquée en se déhanchant, une main sur la taille, et elle était repartie en sens inverse quand le miracle s'était produit. L'essaim d'abeille avait fait demi-tour en prenant exactement le virage à son diapason, avait tourné au plus large en survolant les spectateurs par-delà le podium et en provoquant de nouvelles exclamations admiratives. Cela n'avait pas duré 30 secondes et déjà la mannequin revenait sur ses pas quand, au moment de rejoindre les coulisses, elle eut un quart de seconde d'hésitation devant les deux sorties qui se présentaient à elle, une à gauche et une à droite. Et se souvenant de la consigne particulière de sortir par la gauche pour permettre aux abeilles de rejoindre leur ruche, elle se ravisa au dernier moment pour changer de direction, et dans ce quart de seconde, dans cette infime hésitation, tout se brisa, s'écroula. Le charme se rompit, elle trébucha sur le podium, s'écroula par terre, elle sentit le souffle bruyant des abeilles fondre immédiatement dans son cou, et ce fut alors à la seconde la curée. Les abeilles la piquèrent de toutes parts, dans le dos, sur les épaules, sur les seins, dans la nuque, dans les yeux, dans le sexe, à l'intérieur du sexe. La mannequin recroquevillée par terre, qui se protégeait le visage des mains, se débattant, chassant les assauts des abeilles d'un bras impuissant, se redressant sur les genoux et fuyant à quatre pattes, mais retombant par terre de nouveau vaincue, comme une torche vivante, immolée, qui se contorsionnait sur le podium. Plusieurs personnes s'étaient jetées hors des coulisses pour lui venir en aide, des assistants affolés, impuissants, l'apiculteur allemand qui avait surgi comme un personnage grand guignolesque, lourdeau et empêtré, dans sa combinaison intégrale blanche de cosmonaute, les gants épais, le masque grillagé sur le visage, des pompiers japonais, des extincteurs à la main, qui s'étaient mis en position au-dessus du modèle, mais hésitaient à s'en servir, de peur d'aggraver le mal. Et c'est alors que le rideau s'était soulevé et que Marie, lentement, avait fait son apparition sur scène pour saluer le public, comme si elle avait tout orchestré. Comme si c'était elle qui était à l'origine de ce tableau vivant. Le top modèle martyr, entouré de multiples figures de douleurs figées, les visages européens, asiatiques, interdits, ralentis, arrêtés, comme dans une vidéo de Bill Viola, avec autour de la figure centrale du tableau toujours écroulée sur scène sous un essaim d'abeilles, les effigies casquées et lourdement costumées de l'apiculteur et des pompiers qui se faisaient face, leur extincteur à la main, les genoux fléchis, comme à jamais arrêtés dans un geste d'urgence interrompu. Car refusant de se laisser vaincre par la réalité, Marie avait assumé le hasard et elle avait revendiqué l'image, au point de jeter un doute dans l'esprit des spectateurs, comme si la scène entière qu'ils découvraient sur leurs yeux avait été préméditée par Marie. Mais peu importe que la scène ait été préméditée ou non, l'image avait surgi, dans la réalité ou dans l'imagination de Marie. Et elle se l'était appropriée, en se présentant sur scène. Elle avait signé le tableau, elle avait apposé sa signature sur la vie même, ses accidents, ses hasards et ses imperfections.
Thank you.
Jusqu'à présent, quand elle travaillait sur une collection, Marie s'était toujours attachée à ce qu'elle pouvait contrôler. Les détails les plus infimes. Si infimes qu'il n'y a même pas de nom pour les nommer. Trop infinitésimaux pour être formulés. Ces détails de détails que dans l'atelier de création, d'un œil expert, elle repérait d'instinct sur une robe en préparation et qu'elle corrigeait immédiatement, annotait d'une ligne d'épingle, qu'elle amendait à genoux à coups de retouches indécelables, tissu plissé, pincé entre ses doigts, piochant les aiguilles sur le coussinet de la pelote à épingle, éliminant les défauts et réglant les problèmes à mesure, échenillant sans fin, de nouvelles imperfections apparaissant à la lumière des dernières corrections effectuées, et ainsi de suite, à l'infini. Car ce que Marie recherchait, c'était la perfection, l'excellence, l'harmonie, une certaine adéquation de la forme et du tissu, la fusion de l'œil et de la main, du geste et du monde. La perfection, mirage illusoire, qui s'éloigne comme l'horizon et qu'on poursuit en vain, toujours inaccessible, la distance qui nous en sépare restant désespérément stable, même si les repères au sol, les repères fixes, nous indiquent que du chemin a été parcouru depuis la première ébauche, quand le projet n'est encore qu'un miroitement lointain dans les limbes vaporeux de l'esprit. Mais dans sa quête infinie de la perfection, Marie n'avait encore jamais envisagé de travailler consciemment sur ce qui échappe. Non, elle voulait toujours tout contrôler, sans voir que ce qui lui échappait était peut-être ce qu'il y avait de plus vivant dans son travail. Car la perfection ennuie, alors que l'imprévu vivifie. La conclusion inattendue du défilé du spiral lui fit alors prendre conscience que dans cette dualité inhérente à la création, ce qu'on contrôle, ce qui échappe, il est également possible d'agir sur ce qui échappe et qu'il y a place dans la création artistique pour accueillir le hasard, l'involontaire, l'inconscient, le fatal et le fortuit.
C'était « Autour de Marie, feuilleton en 5 épisodes » d'après le cycle romanesque de Jean-Philippe Toussaint. Lecture par Jean-Philippe Toussaint. Enregistré en public au Musée Calvet dans le cadre du Festival d'Avignon, en partenariat avec la SACD. Musique originale du Delano Orchestra. Prise de son Claire Levasseur et Pierre-Henri. Sonorisation Benjamin Thuot, conseillère littéraire Emmanuel Chevrière, réalisation Delphine Lemaire. Les livres de Jean-Philippe Toussaint sont publiés aux éditions de Minuit.